chapitre 16. Le 15 août 2016, 15h. Kelvin n'avait pas changé. C'est d'abord ce qu'avait pensé Clotilde. Même citadelle de granit coiffant la baie, même village accroché à la Balagne, même train de la plage jusqu'à l'île Rousse. Calvi comptait simplement davantage de touristes que dans son souvenir. Le contraste était saisissant entre le camping des Euproctes, perdu dans le maquis, la bergerie d'Arcanou, au cœur de la montagne, et cette foule entassée au bord de l'eau. Ces familles tournant en rond dans des parkings surchauffés, avant de se résoudre à aller se garer plus loin et revenir à pied. Cette marée humaine descendant des ruelles comme une lave vivante, coulant de la citadelle pour se répandre sur les quais, les terrasses, les plages. Comme si accueillir des millions de visiteurs sur cette île ne changeait rien à sa quiétude, à la tranquillité des coins préservés. Comme si cette invasion estivale ne devait pas inquiéter Cassanou et les autres amoureux de la Corse sauvage. Puisque plus les touristes étaient nombreux, et plus ils s'entassaient dans les mêmes lieux. D'ordinaire, Clotilde n'aimait pas la foule, mais en ce début d'après-midi, elle la trouva rassurante. Le nombre imposait l'anonymat. Le brouhaha imposait le silence. Depuis hier soir, elle avait tant parlé. D'elle, des siens. Avec Franck d'abord sur la route du retour jusqu'au camping des Euproctes. Clotilde avait détesté son petit sourire de vainqueur. « Admets-le, Clo, tu as beau être resté planté sous le chêne avec Valou, m'avoir laissé en plan avec ton grand-père, personne n'est venu. Ton mystérieux correspondant t'a posé un lapin. » « Mais oui, Franck, bien entendu, continue. Aucune soucoupe volante ne s'est posée dans la cour de la bergerie. Aucun fantôme n'est sorti de terre. Rien. Rien que moi et ma fille face à la montagne vide. » Du coup, Clotilde n'avait même pas osé aborder avec son mari la nouvelle coïncidence qui l'obsédait, à laquelle elle ne voyait aucune explication logique. Pacha. Le nom du chien d'Orsou. Le nom de son chien, celui de son enfance. Un nom qui, si elle allait au bout de son raisonnement, sans qu'on lui oppose le refrain « Ce n'est pas possible, ma vieille », avait été donné à ce chiot, il y a une dizaine d'années, par quelqu'un qui avait connu Pacha. L'avait aimé, avait pleuré sa disparition. Et puisque ce n'était pas elle, une seule solution s'imposait. Seule sa maman pouvait avoir baptisé ce chien Pacha. Il y a moins de 10 ans, 20 ans après l'accident, 20 ans après sa mort. Ce n'est pas possible, ma vieille. Franck avait garé la voiture devant la barrière fermée du camping et avait embrassé Clotilde sur la joue en la serrant un instant dans ses bras. Rien d'affectueux dans ce geste, avait-elle pensé. Seulement une accolade respectueuse entre deux joueurs après une partie de tennis. Leur couple se réduisait-il à une compétition? 1-7-0 pour Franck. Si Clotilde avait détesté cette condescendance de Franck, cette politesse à laquelle se force un supérieur avec un employé borné, elle avait moins aimé encore le sourire de Cervone et Spinello, ce matin, à l'accueil du camping. Lorsqu'elle l'avait abordé, il collait l'affiche d'une soirée étise sur la plage de l'Ocheluccia.
Je t'offre un café, Clotilde.
Non, merci.
Ta fille est superbe, Clo. Connard. Elle me rappelle ta mère. Elle possède sa classe, sa...
Un mot de plus et...
Clotilde s'était calmée. Grâce à sa profession d'avocate, elle avait petit à petit appris à maîtriser ses pulsions, à affronter les pires minutes des pires procès, quand la mauvaise foi d'un client dépasse les bornes du défendable, et qu'il faut le défendre, pourtant. Clotilde s'adressait à Cervone pour obtenir des renseignements précis. Rien à redire sur ce point. Le patron du camping l'avait renseigné, avec une précision professionnelle, à propos d'Orsou. Orsou était orphelin, né d'une mère célibataire, morte d'épuisement, de solitude et de honte. Puis, élevé par sa grand-mère, Speranza, la vieille sorcière vêtue de noir qui les avait croisés hier sur la route, puis à la bergerie. Speranza travaillait depuis toujours à la bergerie d'Arcanou, s'occupait du ménage et de la cuisine, de la traite des bêtes et de la cueillette des châtaignes. Elle faisait presque partie de la famille Idrissi, et Orsou avait grandi dans ses jupes, à Arcanou. En puisant au plus profond de ses souvenirs d'enfance, Clotilde parvenait à se rappeler, lorsqu'il passait la journée à la bergerie, avec Nicolas, une ombre apportant les plats, passant le balai, ramassant les jouets derrière eux. Elle se rappelait avec un peu plus de précision un bébé de quelques mois, qui restait presque toujours immobile dans le parc installé à l'ombre du chêne, entouré de peluches abîmées et d'animaux en plastique sales et décolorés. Un bébé muet, maigre, bizarre. Orsou, ce nouveau-né chétif était devenu ce géant, cet ogre, cet ours. Dès 16 ans, Tchervone l'avait embauché pour travailler au camping, parce que personne n'en voulait plus, et surtout pas l'école. Par pure bonté, par amitié pour Cassano. Par pitié, oui, si tu veux, Claude, par pitié. C'est exactement ça, si on veut vraiment nommer les choses. Par pitié. Connard. Clotilde n'avait plus la force de varier les insultes crachées par ses pensées. Son cerveau était saturé, de souvenirs étonnamment précis, qui ressurgissaient à chaque virage, à chaque rencontre, à chaque conversation, et qui entraient en collision avec tout ce qu'elle vivait depuis hier. Comme si une vérité inavouable se dissimulait derrière, une vérité qu'elle n'avait pas su deviner en 1989, du haut de ses 15 ans. 27 ans plus tard, elle avançait en piétinant dans la rue Clémenceau. La foule grouillante de l'artère commerçante de Calvi l'apaisait. Son regard se perdait dans la vitrine de chaussures de lunatique, s'attardait sur les colliers de la bijouterie Mariotti, sur les robes de chez Benoît. D'autres images remontaient à la surface. Un de ses souvenirs disparus qui s'était d'abord traduit par une vague réminiscence. L'impression d'avoir déjà vécu la même scène, avant que le voile se déchire et que le film repasse devant ses yeux avec netteté. La rue de Calvi. Sa mère qui traînait comme elle aujourd'hui, devant les boutiques. Son chéri qui lui offre la robe noire à rose rouge et les bijoux rubis sur lesquels elle avait flashé. Celle, ce qu'elle portait le jour de l'accident. Clotilde mesurait seulement aujourd'hui toute la portée du geste de son père. Offrir à sa femme la tenue dans laquelle elle allait mourir. Sa parure pour l'au-delà. La plus séduisante qui soit pour le dernier regard amoureux. N'était-ce pas la plus belle preuve d'amour? Choisir ensemble le costume de sa mort comme on choisit celui de son mariage. À force de traîner devant la boutique de Benoît, Valou l'avait rejointe. Il était rare que Clotilde fasse les boutiques, encore plus rare qu'elle les fasse avec sa fille. Mais par le miracle du temps suspendu des vacances, elle se retrouvait avec sa fille, les yeux fixés sur la même robe de viscose anthracite, comme des complices excluant du jeu l'homme de la famille, Franck, qui attendait, adossé au mur du parvis de l'église Sainte-Marie, 10 mètres plus haut. Ça leur ressemblait si peu, cette division sexuée de la maison. Papa au foot avec le grand, maman au solde avec la petite. C'est au moins l'avantage des familles à enfants uniques, pensa Clotilde. Rendre impossible cette pernicieuse parité genrée. Les touristes ruisselants peinaient sur la pente de la citadelle, cherchant l'ombre. Malgré la foule, personne n'avait eu l'idée depuis l'été 89 d'installer un ascenseur. Passé le pont-levis, Clotilde hésita un instant à proposer à Franck et Valentine d'aller boire un verre chez Tao, mais elle trouva aussitôt l'idée ridicule. Le pèlerinage sur les pas de son adolescence avait ses limites, et Valou n'avait sans doute jamais entendu la moindre chanson d'Higelin. Clotilde préférait se perdre dans le dédale des rues de la citadelle, jusqu'à perdre Franck. Il les rejoignit 9 minutes et 7 textos plus tard, à la terrasse de La Candela, une placette ombragée, avec vue panoramique sur le port, entre les feuilles des oliviers. Lorsque Clotilde vit Franck apparaître le long des remparts, devant la tour du sel, une main dans le dos cachant maladroitement son sac Benoît, elle en oublia pour un instant la ronde des mystères qui dansait la salsa du démon autour d'elle. Franck avait fait l'aller-retour jusqu'à la boutique de prêt-à-porter féminin. 200 mètres de dénivelé au pas de course. Comme son père jadis. Ado, elle se souvenait n'avoir pas su faire le tri dans ses sentiments. entre la fierté pour l'attention délicate de son père, l'admiration du fin jeu de séduction de sa mère et la jalousie comme un grand chapeau posant une ombre sur le tout. Elle avait rêvé alors, elle s'en souvenait maintenant, de jouer le même jeu, d'être la victime consentante d'un homme farceur. Elle ne s'en sortait pas si mal, au final. Franck avait encore le goût pour ces surprises-là, parfois. Savoir surprendre l'autre, pensa Clotilde, la clé numéro un d'un couple qui dure. Même si Franck l'avait fait avec moins de discrétion que papa jadis, moins de mise en scène, moins de fantaisie à ne pas fournir d'explication à son départ précipité, à tenir grossièrement le sac Benoît dans son dos. Ne pas faire la fine bouche, la clé numéro 2 d'un couple qui dure. Franck poussa les verres de grenadine et posa le sac sur la table. « Pour toi, ma chérie. » Sa chérie, celle vers qui Franck avançait le sac, c'était Valou. « Je suis certain qu'elle va t'aller à ravir, ma belle. » Éclipse totale. L'orage aurait pu tomber sur la citadelle. Un tsunami emportait tous les yachts amarrés dans le port. Un coup de vent arrachait les parasols et les drapeaux. Le salaud. Le triple salaud. Clotilde pestait toujours en silence que Valou revenait déjà des toilettes. La robe anthracite enfilée à la hâte sur son maillot de bain. Sexy. Moulante. Parfaite.
Merci, papa. Je t'adore.
Valou embrassait papa en y mettant de la conviction. Clotilde encaissait. Ils auraient dû faire deux gosses en fin de compte. L'enfant unique est une connerie, un piège pour le couple. Oui, deux gosses, un chacun. Se faire piquer son mec par sa propre fille, elle touchait le fond. Vie de merde, envie de tuer. Valou s'était levé et se tenait sur le parapet avec en toile de fond la baie grouillante de Calvi, tendant son appareil photo. Et un selfie pour faire enrager ses copines.
Cadeau de mon petit papa chéri.
Surréaliste. VDM, VDM, VDM. Et ce goujat de Franck qui continuait de lui sourire en dévorant leur fille des yeux, qui passait sa main sous la table comme pour se gratter les couilles en douce. Et qui en sortait un autre sac Benoît.
Pour toi aussi, ma chérie.
Le salaud! L'adorable salaud!
Certes, Franck n'était pas au niveau de son père jadis, du coup de l'appareil photo oublié, mais sa mise en scène à double détente tenait tout de même la route. Clotilde se sentit chavirée. Pourquoi fallait-il qu'elle soit si vulnérable? Ne pas faire la fine bouche. Se rendre pulpeuse, humide, sensuelle. Et embrasser son homme, sans retenue. Ne pas faire la fine bouche. Faire taire la petite voix qui lui répétait que tout se déroulait comme il y a 27 ans. Même lieu, même histoire, même scène de famille. Cette robe que son homme venait de lui offrir, comme son père l'avait offerte à sa mère, c'était peut-être celle dans laquelle elle allait mourir. Quelques heures plus tard, revenue au camping des Euproctes, seule dans les sanitaires, sans même hors-sou pour passer la serpillière ou d'ado pour brailler du rap, elle enfilait la robe de viscose et se regarda dans le miroir. Le constat fut sans appel. Si elle devait porter cette robe le dernier jour de sa vie, elle ne serait pas une morte aussi sexy que sa mère. Le tissu tendu bâillait à la hauteur de ses seins, pas assez volumineux. Flottait sur ses hanches, pas assez dessinées. Recouvrait jusqu'aux genoux ses cuisses, pas assez longue. Elle n'était définitivement pas à la hauteur de sa mère. Et Franck, pas à la hauteur de son père. Ils étaient morts trop tôt pour l'élever. L'élever au sens le plus pur, la hisser à leur hauteur. Pourquoi? Pourquoi était-il mort? Peut-être l'apprendrait-elle demain. Cesare Garcia, le gendarme en retraite qui n'avait rien voulu lui révéler au téléphone, l'attendait dans la matinée.
« 27 ans que tu attends la vérité, Clotilde »,
avait-il dit avant de raccrocher.
« Tu peux bien attendre encore quelques heures supplémentaires. »